France Info.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Les Informés. Nous allons commencer avec une image historique. Donald Trump est allé en Corée du Nord. Un rendez-vous avec Kim Jong-un dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Est-ce un succès ? Succès sur la forme, sans doute. Les images sont historiques, mais sur le fond, que dit ce geste et quel est l'avenir des deux Corées ? Trump, superstar de la diplomatie, c'est le thème à la une des Informés ce soir. Mais nous évoquerons également Emmanuel Macron à Bruxelles qui tente de s'imposer ce soir. Et puis, le retour de Nicolas Sarkozy cette semaine. Est-il le dernier recours de la droite ? Les Informés avec nous ce soir. Alexia Germont, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, auteur de Réveillons notre Europe, paru aux éditions Temporis. Jean-Baptiste Marteau, bonsoir.
Bonsoir Noé, bonsoir.
Journaliste à France 2. Jérôme Béglé, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction du Point, François Hernenwein, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au journal La Croix, notre partenaire ce soir. Merci d'écouter France Info, Les Informés jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27. Trump en Corée, c'est donc une première, c'est historique. Je vous propose d'écouter le président américain lors de sa rencontre avec le leader nord-coréen ce matin.
Nous avons de très bonnes relations. Si vous regardez 2 ans et demi en arrière, avant que je sois président, la situation était dangereuse. Pour la Corée du Sud, pour la Corée du Nord, pour le monde. La relation que nous construisons signifie beaucoup pour tant de gens. C'était un honneur que vous me demandiez de franchir cette frontière. Je n'étais pas sûr que vous le feriez, mais vous l'avez fait. C'était un grand moment. Et merci.
Jérôme Béglé, ça y est, le monde est sauvé.
Ah oui, par rapport à hier, ça va beaucoup mieux. Hein. Bon, c'est de la com. Le principe de la bonne com, c'est que ça se voit pas, mais là, ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure. Qu'est-ce que cette rencontre, ces quelques pas en Corée du Nord ont apporté au monde ? Rien. Si ce n'est peut-être une victoire politique, peut-être diplomatique et en tout cas d'image pour Kim, qui évidemment était un peu critiqué parce qu'il avait bâclé les négociations là, il y a quelques mois et on pensait qu'un accord était à portée de main. Et tout d'un coup, le grand Satan américain vient en Corée du Nord, ce qui n'était pas arrivé depuis, je vous rappelle que entre les deux Corées, techniquement, ces deux pays sont encore en guerre. Bon. Donc quand même, Trump fait un très beau cadeau à Kim. Comme je pense que Trump est intelligent, il le sait. Donc ce cadeau va déboucher sur quelque chose. Sur quoi ? Sur un accord fantoche où on se dira que tout va bien, mais chacun continuera à fabriquer son nucléaire dans son dos, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ça éclipse complètement le sommet du G7 à Osaka.
Le G20.
Le G20, pardon, à Osaka. Je m'interroge sur l'opportunité de cela, en tout cas, ça fait parler, c'est un très beau coup de com'.
Alexia Germont, vous aussi, vous vous êtes dit « waouh ».
Oui, bien sûr, un coup de com', mais également, surtout, faut pas oublier qu'il s'adresse, que Donald Trump s'adresse à son électorat à l'intérieur. Et effectivement, au moment où vous avez le Parti démocrate aussi, qui avait ses 20 candidats qui commençaient à débattre. Donc, tout ça se place, de toute façon, sur un plan, je pense, gagnant-gagnant aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a d'abord Kim Jong-un qui a beaucoup à gagner à faire venir le grand Satan, comme vous disiez. Mais au-delà de ça, Trump a été assez spontané sur ce coup-ci. Il n'était pas loin, hein, d'ailleurs, physiquement, parce que c'est
tout
pour
est parti
ça.
Tout est parti d'un tweet.
Mmh. Voilà, tout est parti d'un tweet.
Twitter est interdit, je crois, en Corée du Nord. Je ne sais pas comment.
Je ne sais pas si c'est de la grande diplomatie. Mmh. C'est en tout cas de la grande communication.
Jean-Baptiste Marteau, l'homme de télévision, vous ne voyez que de belles images là.
Non, il y a un fantastique coup de com, et c'est là où Donald Trump, il est quand même extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Effectivement, il fait l'image. Mais c'est une surprise de plus, et c'est vrai qu'avec Donald Trump, j'ai du mal à comprendre de sa politique étrangère. Il veut aller vers quoi ? C'est quoi le but ? C'est quoi la stratégie qu'il déploie, notamment avec Kim Jong-un ? On a vu tout et son contraire ces derniers mois. Et d'ailleurs, c'est vrai, est-ce que la dénucléarisation de la Corée du Nord a avancé, ne serait-ce qu'un tout petit peu aujourd'hui ? Absolument pas. Et d'ailleurs, depuis 18 mois, c'est un petit peu le flou, un coup de chaud, un coup de froid entre les relations entre les deux. On a du mal à comprendre. Maintenant, faut quand même regarder d'où on vient. Il y a 18 mois, les deux menaçaient de se rayer de la carte avec ce tweet de Donald Trump qui disait quand même qu'il avait des missiles beaucoup plus gros et beaucoup plus puissants que son ami de Corée du Nord. On était quand même à un niveau extraordinaire.
Il l'avait qualifié de Rocketman.
Voilà, de Rocketman. Bon, heureusement, tout ça est un des purs descendus et vaut mieux les voir se serrer la main aujourd'hui. Maintenant, pourquoi faire et quelle va être la prochaine étape ? Alors là, c'est le flou tout artistique.
Donc c'est de la com, mais il y a quand même une évolution par rapport à il y a 18 mois, comme le dit Jean-Baptiste, François Hernandez.
Non, il ne s'est rien passé. Singapour avait été une amorce, Hanoï avait été un échec. Et cette rencontre-là, ça a été évoqué, c'est de la com pure. Sur le plan des négociations sur le nucléaire, on repart à zéro. C'est-à-dire, 3 sommets, il ne s'est rien passé d'essentiel, sauf peut-être l'amorce d'un dialogue, mais sur les négociations pures et dures sur le nucléaire, je rappelle les termes du désaccord. Les Américains souhaitent un désarmement nucléaire total de la Corée contre une aide, etc. Les Nord-Coréens entrent dans la discussion. Aidez-nous, et puis on dénucléarisera doucement. Et ces positions, si on va à l'os, sont proprement incompatibles. Les uns poursuivent des objectifs qui ne sont pas acceptables pour l'autre. Donc on voit bien que Trump, pour des raisons électorales, ça a été dit, va continuer à amuser le peuple américain et le monde entier.
Ça amuse vraiment le peuple américain ?
Enfin, en tous les cas, ça marque une détente, ça c'est incontestable. On l'a dit tout à l'heure.
C'est quoi ? Ça rassure ? Ça montre
que
c'est un très bon diplomate.
C'est Make America Great Again. On a un président qui agit.
Alexia Germont.
Oui, c'est Make America Great Again. Il s'adresse aussi de cette façon-là. Il est entré en campagne et il essaie de pilonner finalement le débat électoral américain.
Jean Begley.
Trump est en campagne électorale, effectivement, il a plein d'atouts pour lui. Économiquement, l'Amérique va très bien, le chômage n'a jamais été aussi bas. Sur le plan de la concurrence interne, le Parti républicain n'aura aucun candidat face à lui. Le Parti démocrate peine à trouver quelqu'un de crédible. En revanche, il a une image de va-t-en-guerre. Je vous reporte à ce qui se passe entre l'Iran et l'Amérique. L'Amérique a déchiré purement et simplement un traité de paix qui avait le mérite d'exister. Au moins là, il se dit peut-être que vous me considérez comme un va-t-en-guerre à l'égard de l'Iran, mais un autre ennemi irréductible qu'est la Corée du Nord, je tends la main.
D'équilibrer
un peu les plateaux.
On va essayer de voir justement quelle est la différence entre cette stratégie en Corée du Nord et la stratégie avec l'Iran. Il est 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Les mesures de circulation différenciées seront levées demain à Paris et Strasbourg. L'épisode de canicule se termine et le niveau de pollution à l'ozone devrait diminuer. En revanche, la circulation différenciée est maintenue à Annecy, Lyon et Villeurbanne. Angela Merkel le reconnaît, les discussions ne sont pas très faciles. La chancelière allemande est arrivée au sommet de crise à Bruxelles tout à l'heure. Les dirigeants européens tentent de se mettre d'accord pour désigner le futur président de la Commission européenne. Ils doivent désigner également un responsable pour le Conseil européen, la Banque centrale et les affaires étrangères. Au Soudan, les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Plusieurs milliers de personnes ont rejoint le palais présidentiel à Khartoum pour réclamer le départ des généraux au pouvoir et la mise en place d'un gouvernement civil. C'est le plus grand rassemblement depuis le sit-in qui avait été dispersé dans le sang au début du mois. Et puis Max Verstappen remporte le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Sa victoire est confirmée par les commissaires de course. Le pilote Red Bull a failli être pénalisé après avoir poussé le leader Charles Leclerc à 2 tours de l'arrivée.
France Info. France Info, les informés. Noé Da Silva.
Les informés jusqu'à 21h, Alexia Germont, Jean-Baptiste Marteau, Jérôme Begley et François Hernenwein. Donald Trump a donc remercié Kim Jong-un d'avoir accepté sa proposition. Il a même dit « sinon vous m'auriez fait perdre la face ». Il a même donc plaisanté avec le leader nord-coréen. Finalement, Jérôme Begley, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, il y a une différence avec l'Iran. Est-ce qu'il y a une réelle différence, c'est-à-dire qu'avec Jean-Baptiste Marteau, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la Corée, il a d'abord montré les muscles avec des tweets assez violents, des menaces. Est-ce que ce n'est pas la même chose, la même méthode avec l'Iran ?
Mais moi, je pense justement, avec cette opération de communication, il ne s'adresse pas du tout à son électorat, parce qu'en fait, l'électorat américain, je pense, n'en a pas vraiment à faire de l'histoire en Corée. On se préoccupe beaucoup plus de situations intérieures, mais il s'adresse beaucoup plus à la communauté internationale. Et effectivement, permet un petit peu de faire diversion avec l'Iran. On était quand même monté très très haut la semaine dernière dans les tensions et dans les menaces. Ça permet de faire un petit coup et de faire parler de lui de manière un petit peu différente plus sur positive. Un autre terrain. Peut-être plus positif également. Maintenant, l'un comme l'autre, ça ne résout absolument pas le problème de fond en Iran comme en Corée du Nord.
François Ehrenwein, est-ce que avec l'Iran, il veut suivre la même méthode, on montre les muscles d'abord?
C'est la tentation, c'est dans sa logique. Mais je voudrais mettre en garde contre le risque de surinterprétation de la politique de Donald Trump. C'est une politique tendanciellement gavroche. On vient d'évoquer la Corée. Je rappelais tout à l'heure que jusqu'à présent, il n'a rien obtenu sauf un petit refroidissement. Et sur la question de l'Iran, on voit bien que l'ensemble de la communauté internationale, les Européens, cherchent à contourner les sanctions, etc. On ne peut pas dire que ça soit une éclatante victoire diplomatique pour les États-Unis, cette affaire iranienne. Donc, en analyste, on cherche à trouver de la rationalité, mais peut-être qu'à certains moments, il n'y en a pas vraiment.
Il n'y en a pas ?
Oui, je pense que parler à la fois à la communauté électorale interne et à la communauté internationale, c'est l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense qu'il fait d'une pierre deux coups. Je noterai quand même, je crois qu'il faut qu'on insiste là-dessus, le fait que en mai dernier, John Bolton, qui est son conseiller à la sécurité intérieure, parlait d'une violation des résolutions de l'ONU, par rapport à l'attitude nord-coréenne. Donc on voit bien qu'il y a des capacités de volte-face, et c'est là où il ne faut pas surinterpréter, où on est beaucoup dans l'instant, et la diplomatie de ce point de vue-là est peut-être assez court-termiste pour rebondir sur ce qui s'était passé la semaine dernière sur l'Iran.
On reste un peu dans l'international avec un Conseil européen, pas comme les autres. Ce soir, les dirigeants de l'Union doivent désigner les nouveaux présidents de la Commission, du Conseil, du Parlement, le haut représentant pour les affaires étrangères. Bras de fer entre Macron et Merkel. Écoutez en tout cas le président Emmanuel Macron lors de son arrivée à Bruxelles tout à l'heure.
Je suis moi optimiste. Je pense que nous pouvons trouver un accord constructif et j'aborde ce conseil avec un esprit positif. Et ce qu'on fait depuis le début, moi je ne pousse pas tel ou tel candidat. Vous m'avez d'ailleurs jamais entendu dire je tiens absolument à tel ou tel candidat. J'ai pu dire que j'étais hostile à certains ou certaines parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères que j'évoquais, soit de recomposition politique, soit de compétences requises pour les postes auxquels on les proposait. Mais je considère ensuite qu'il faut un esprit de compromis. Je tiens donc à ce que nous puissions sortir de ce conseil avec les réponses et cette nouvelle équipe.
Jean-Baptiste Marteau, c'est la positive attitude d'Emmanuel Macron ?
Oui, parce qu'il essaie de montrer un petit peu les quelques voies de compromis qui peuvent se dégager avec l'Allemagne, parce qu'on est quand même dans une espèce d'impasse où, depuis maintenant plusieurs semaines, on a la France qui dit en gros « je ne veux pas » de Manfred Weber, le candidat allemand. Pour la présidence de la Commission européenne. Et évidemment, Angela Merkel qui, jusque-là, refusait de céder sur ce plan-là.
Elle aurait cédé,
mais alors pourquoi et pour quel compromis ? On en est encore loin. C'est peut-être une nouveauté quand même dans le rapport franco-allemand en Europe. On avait l'habitude depuis maintenant une quinzaine d'années, effectivement, que le candidat, en tout cas soutenu par l'Allemagne, arrive quand même à s'imposer pour présider la Commission européenne, plus ou moins soutenu par la France et les grands pays européens. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Et depuis le début, effectivement, Emmanuel Macron joue un bras de fer avec Angela Merkel, avec le reste de l'Europe. Peut-être aussi profite-t-il de la faiblesse de certains de ses partenaires. Lui n'est pas non plus en extraordinaire bonne forme en arrivant au Parlement européen.
Est-ce que ce n'est pas quand même un peu l'ancien monde, là, qu'on le voit ce soir ? On se distribue encore des postes, c'est un peu Jérôme Béglé ?
Alors, c'est l'ancien monde à plus d'un titre. D'abord parce qu'effectivement, là, on comprend bien que ça marchande
dans la coulisse.
Il y a deux postes importants, c'est président de la Commission et président de la Banque Centrale Européenne. Alors là, je peux vous dire qu'Angela Merkel, elle ne lâchera jamais sur la présidence de la BCE. Ça, c'est son truc. Bon, et il y a deux postes un peu moindres qui sont le président du Conseil et le représentant pour les affaires étrangères, qui sont un peu des bouts de viande qu'on va laisser comme ça pour qu'il n'y ait pas réellement de perdants. Mais là aussi, on est un peu dans l'ancien monde, c'est qu'en fait, en Europe, il y a une nouvelle force qui est montée. C'est l'Europe centrale, où c'est l'Europe ex-Bloc de l'Est, ou l'Europe des nationalistes, si j'ose dire. Et il faudra tenir compte des élections européennes. Il faudra tenir compte de cette force-là qui sont de plus en plus imposantes.
Et là, vous avez l'impression qu'on n'en tient pas compte ?
Bah, on va voir ce qui va sortir. Ce qui est certain également, c'est que l'alliance franco-allemande n'a d'alliance que le mot. Parce qu'on voit très bien que depuis au moins 6 mois entre Merkel et Macron, c'est un peu une espèce de guéguerre. Ils sont tous les deux affaiblis sur le plan international, sur le plan intérieur, pardon. Merkel, parce qu'elle est en bout de mandat, normalement dans 2 ans, il y a des élections, elle partira. Peut-être partira-t-elle avant pour des raisons de santé, mais en tout cas, dans 2 ans, normalement, c'est fini. Elle a une successeur qui a très envie que la place se libère vite. Et puis, Emmanuel Macron n'est pas arrivé en tête. La République En Marche n'est pas le premier parti sorti des urnes en France. Donc là aussi, les deux géants qui ne s'entendent pas entre eux et qui sont un peu affaiblis sur le plan intérieur, ça peut permettre à d'autres pays de tirer leur épingle du jeu. C'est ce qui va se passer cette nuit.
Alexia Germont.
Oui, plusieurs réflexions. D'abord, le mérite qu'avait au moins le système du Spitzenkandidaten, c'est que c'était plus transparent. Et ça, ça a été refusé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette sensation assez désagréable d'ancien monde qui revient. Là où je trouve que l'on est plongé dans le nouveau monde qui se passe justement devant nos yeux avec cette nouvelle cartographie européenne, montée des pays de l'Est, bien sûr, mais surtout on voit bien que le résultat des élections, avec notamment la perte de pouvoir cumulé et du PPE et des socialistes, fait qu'aujourd'hui, au moment où il va falloir nommer notamment le président de la Commission, où vous pourriez avoir un Frans Timmermans, qui est donc le représentant des socialistes, qui soit un second choix qui arrive, en fait, ça reviendrait à nommer quand même quelqu'un qui a perdu les élections. Et donc, c'est là où c'est très intéressant et où on peut avoir une surprise avec une Margrethe Vestager, par exemple, qui fait partie des libéraux, qui est la puissance, enfin qui est le parti qui a quand même bien monté, bien progressé durant ces élections européennes, où là, ça pourrait être une sortie par le haut.
François Hernenwein, Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République française, il brillait en Europe, il épatait les autres dirigeants. Est-ce que là, il a perdu de sa superbe?
Et tout n'est pas de sa faute sur le terrain européen. Dans la dynamique européenne, quelque chose a été brisé avec l'affaiblissement d'Angela Merkel. Si Angela Merkel avait gardé toute son aura en Allemagne, n'avait pas connu les revers électoraux qu'elle a connus, je pense que les choses se seraient passées différemment. Il manque aujourd'hui en Europe l'accord franco-allemand, cette dynamique très forte, qui a permis à l'Europe de traverser les crises, de surmonter les difficultés, et qui était proprement créative, même si chacun jouait sa carte dans l'histoire. Mais c'est ce socle franco-allemand qui a permis à l'Europe d'avancer. Maintenant, on entre dans un autre monde qu'il faudra déchiffrer.
Les informés continuent après le rappel de l'info à 20h20. Boris Allier.
Le gouvernement français met en cause le ministre italien de l'Intérieur dans sa gestion des migrants. La porte-parole Sibeth Ndiaye évoque une stratégie d'hystérisation. Le ton est monté ces dernières heures avec l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch. La jeune Allemande avait accosté de force dans le port italien de Lampedusa. Ce n'était pas un acte de violence, seulement de désobéissance, se défend-elle. Dans les Yvelines, des parents en garde à vue après avoir laissé leurs 2 enfants dans la voiture. Hier soir, la température est montée à 41 degrés dans le véhicule. Les 2 enfants âgés de moins de 5 ans ont été retrouvés déshydratés. Ils ont pu être soignés dans la soirée. L'imam de Brest appelle au calme après les tirs dont il a été victime devant sa mosquée. Rachid El-Jaï est sorti du bloc opératoire et a pris la parole dans une vidéo diffusée sur YouTube. Le tireur présumé, lui, s'est suicidé. Les enquêteurs évoquent un déséquilibré sans motivation terroriste. Et puis Warren Barguil enfile le maillot bleu-blanc-rouge. Le coureur d'Arkéa Samsic remporte le titre de champion de France de cyclisme sur route. Il s'est imposé tout à l'heure sur le circuit de la Foissière en Loire-Atlantique.
France Info. France Info, les informés. Noé Da Silva.
Les informés ce soir, Alexia Germont, Jean-Baptiste Marteau, Jérôme Begley et François Hernenwein, de la politique franco-française maintenant avec du haut niveau. Vous allez l'entendre, des petites phrases, voire des insultes entre le ministre de la Transition écologique François de Rugy et le député de la France insoumise François Ruffin, qui a traité de politicaillon au côté aristocratique François de Rugy, qui lui a répondu aujourd'hui sur BFM TV.
Vous savez à qui me fait penser? Un fasciste. Les fascistes, ils se comportent comme ça. Ils discréditent les gens qui ne pensent pas comme eux, au lieu de débattre, au lieu d'accepter la contradiction. Monsieur Ruffin, il n'accepte pas la contradiction, il transpire la haine de l'autre. Ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est quelqu'un qui transpire la haine de l'autre. Alors franchement, moi je suis prêt à débattre. Demain, vous m'invitez sur
et
ce plateau,
sur le fond,
face à lui, je défends
sur ce problème
et je
de
débat des solutions. Je débat des propositions,
de
pas des proclamations. Il fait une vidéo toutes les semaines. Vous savez qui est-ce qui faisait ça avant?
Répondez sur
c'est Jean-Marie
fond.
Le Pen avant, qui faisait une petite vidéo, il se met en scène, ah, puis il fait des petites imitations et puis il parle à son caméraman. Mais là, on parle d'écologie, on parle de planète,
et
mais qu'on fasse des
sur
propositions.
Le fond,
et moi, je fais des propositions, non seulement des propositions, mais je fais des actions. Quand j'ai défendu le projet de loi énergie-climat à l'Assemblée nationale pendant 3 jours, j'ai vu Monsieur Ruffin une fois pendant 5 minutes.
François de Rugy énervé, on le voit rarement comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Baptiste Marteau?
C'était au niveau, en tout cas, les accusations de l'un, les
fasciste,
réponses de l'autre.
Quand même,
fasciste, effectivement, il est un peu sorti de ses gonds, François de Rugy, parce qu'il avait été, depuis plusieurs jours, hein, chauffé un peu à blanc par François Ruffin, qui était venu jusqu'à le provoquer dans sa voiture à la sortie de l'Assemblée nationale en lui disant « c'est la pleine canicule et vous prenez votre voiture ». Bon, au-delà du fond, qui est quand même pas très élevé, dans ces, ça monte toujours... Le problème de débat qui est à la France insoumise, c'est que vous avez Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, qui sont dans une espèce de surenchère permanente, avec plus ou moins de talent. C'est vrai que François Ruffin, quand il fait ses vidéos et qu'il interpelle les ministres à la sortie de l'Assemblée nationale, c'est plutôt
parce
bien fait.
Parce que leur chauffeur laisse tourner la exactement, voiture
en plein soleil.
De canicule.
C'est plutôt efficace. Maintenant, sur le fond, on voit qu'il y en a certains qui sont en train de dire cette stratégie, elle nous envoie dans le mur. Et c'est pour ça que, par exemple, Clémentine Autain fait ce soir un meeting en tentant de rassembler la gauche et en disant cette voie-là, elle nous emmène dans le mur et il faut qu'on essaie de trouver une union des gauches en arrêtant de s'insulter les uns les autres. C'est quand même deux visions totalement opposées à la France insoumise.
Jean Beuglé, là, c'est donc la faute de la France insoumise, de François Ruffin?
Je suis d'accord avec Jean-Baptiste Marteau, j'ajouterais quand même qu'on a beaucoup de mal en France à avoir un débat sur l'écologie apaisé. C'est qu'à chaque fois, le deuxième argument, c'est un argument d'insulte, globalement. Donc écologie punitive, et vos chiffres sont faux, et vous êtes révisionniste du climat.
Oui, Ruffin a dit, si l'incarnation de l'écologie dans ce pays, c'est de Rugy, c'est évident que tu rends l'écologie un peu antipopulaire.
Pardon. En l'occurrence, l'écologie, j'ai pas une passion pour François de Rugy, mais enfin, il incarne pas mal ça au gouvernement, il a un passé qui plaît dans sa faveur, bon, évidemment, il a renoncé à quelques-unes de ses convictions au moment de l'affaire Notre-Dame-de-Lorme. Enfin, c'est pas le premier. Je suis pas certain que Ruffin soit le premier à donner des leçons de calme, des leçons de modération et des leçons de constructivisme ou de choses un peu positives à l'égard de Monsieur de Rugy. Je trouve que là, quand même, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Par ailleurs, la réponse de Rugy, directement au point Godwin. Alors là, on n'y va pas. C'est la première phrase. Paf. On traite de fasciste. Et puis pour bien montrer qu'on a bien pigé le truc, on finit avec Jean-Marie Le Pen pour être sûr que tout le monde ait bien compris. Bon. Je suis pas certain que ce soit l'échange le plus intéressant du week-end, mais ouais. Ça montre quand même qu'il y a un certain énervement au sein du gouvernement et sur les questions écologiques et au sein de l'extrême gauche, effectivement.
Ça chauffe, Alexa Germont.
Je crois surtout que c'est l'image de la politique telle qu'on ne la souhaite pas, telle qu'on ne la veut pas. Il n'y a rien de positif.
C'est encore l'ancien monde, finalement.
Mais oui, c'est l'ancien monde. Non, mais bien sûr que c'est l'ancien monde. Parce que, avec plus ou moins de talent, on voit bien qu'au sein de la France insoumise, on est sur des logiques extrêmement démagos. Et ça, je crois que c'est. Simplement inacceptable. Après, l'initiative de Clémentine Autain, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je trouve qu'elle est... Il faut la louer, d'abord, parce que c'est pas si simple. Elle parle de Big Bang. Elle essaye quand même de rassembler... là où c'est assez intelligent, c'est qu'elle voit bien que, finalement, les partis politiques, aujourd'hui, seuls, n'arrivent pas à susciter l'envie et le lien à nouveau avec les citoyens. Donc, elle s'ouvre vers la société civile d'extrême-gauche, mais vers la société civile. Ça, je trouve que c'est alloué. Après, le positionnement du « en même temps » de Clémentine Autain peut me faire assez sourire, parce que c'est vrai qu'elle essaye de rester au sein de la France insoumise en préparant les prochaines échéances, et pas que les municipales.
Il n'y a pas de solution s'il n'y a pas de pluralisme.
Bien sûr, mais il y a un moment aussi où, en politique, il faut rentrer dans le grand bain. C'est-à-dire que si elle pense que la solution qui est préconisée par le parti auquel elle appartient n'est pas la bonne, à ce moment-là, il faut tirer toutes les conséquences. Elle plante aujourd'hui le premier drapeau.
François Hernenwein. Qu'est-ce qui vous inspire le plus, le Big Bang de Clémentine Autain ou la petite guerre entre De Rugy et Ruffin?
Toute loyauté, ni l'un ni l'autre.
Merci.
J'ai
c'est
envie de
François
vous répondre, ça, mais je peux argumenter. C'est face à face, c'est ping-pong, cette hystérisation du débat politique. Il y a deux partenaires dans l'histoire. Il y a celui qui provoque, celui qui répond au même niveau. Et je pense que, et les uns et les autres, s'ils acceptent d'entrer dans cette logique, il faut qu'ils en assument les conséquences. C'est-à-dire, c'est destructeur pour l'image de la politique, c'est inutile au débat, donc je ne vois pas de bonne raison de se livrer à ce genre d'exercice. Ni chez les uns, ni chez les autres.
Les informés continuent jusqu'à 21h. Après l'info, restez avec nous, à tout de suite.
France Info Trafic, avec la carte carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
La route ce soir, Marion Bargiacchi, le péage de Puchelet est saturé.
Oui, le péage de Puchelet toujours très saturé sur la 13, l'autoroute de la Normandie. Les voitures sont quasiment à l'arrêt et vous faites le trajet de Mantes-la-Ville jusqu'au périphérique en plus d'une heure, au lieu d'une demi-heure en temps normal. Vous ralentissez aussi sur la 10 vers Paris pendant 3 km de Marcoussis aux Ulis, mais le péage de Saint-Arnoult est en train de se décharger. Des ralentissements également sur l'autoroute du Soleil, la 7 dans le sens Marseille-Lyon. Ça coince de Mercurolles à Larnage dans la Drôme et de Fézin à Saint-Fons dans le département du Rhône. Enfin, un accident à vous signaler en Haute-Garonne, sur la 64 de Bayonne vers Toulouse à hauteur de Saint-Médard. Deux voitures se sont accrochées et vous ne roulez plus que sur une voie.
Le temps de notre 1er juillet avec vous Jean-Michel Golinski.
Demain, en dehors de Rhône-Alpes et du bassin méditerranéen, où il fera encore 35 à 37 degrés, ponctuellement 39 sur la Drôme, sur le reste du pays, les températures vont rejoindre des valeurs plus normales pour la saison que celles enregistrées ces derniers jours, avec par exemple 28 à 32 degrés dans le Grand Est et le Sud-Ouest, 26 à 28 sur le Poitou-Charentes, du centre Val-de-Loire au bassin parisien, et sur la Champagne, et 20 à 24 plus près de la Manche. Autour de la Méditerranée, le soleil va briller toute la journée, mais sur le reste du pays, ce sera quand même plus difficile, avec le plus souvent un temps très variable, ponctué d'averses et même de coups de tonnerre. Avec l'après-midi, des orages parfois violents sur l'Auvergne et le relief de l'Est. On remarquera tout de même une certaine embellie l'après-midi entre le nord de la Loire et la frontière belge.
Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et à 20h30, c'est Léo Técher.
Le gouvernement français dénonce la stratégie d'hystérisation de Matteo Salvini après l'arrestation de la capitaine du Sea-Watch. Carola Rackete a accosté de force hier dans le port de Lampedusa pour débarquer 40 migrants en danger de mort. Le ministre italien dénonce un acte de guerre. Il réclame de la prison ferme. Mais en détention, Carola Rackete a expliqué son geste dans une interview au Corriere della Sera. Et Olivier Tosseri, la jeune Allemande, se défend de toute violence.
Ça n'a pas été un acte de violence, mais de désobéissance, affirme Carola Rackete, qui reconnaît néanmoins une erreur dans sa manœuvre pour forcer le blocus des eaux territoriales italiennes. Elle explique qu'elle n'a jamais voulu mettre en danger la sécurité des militaires sur la vedette de la police douanière et financière qui lui interdisait l'accès au port de Lampedusa. La situation était désespérée, répète la jeune femme. J'avais peur, mon but était juste d'amener sur la terre ferme des personnes exténuées qui auraient pu se suicider. La capitaine du Sea-Watch 3 répète également qu'elle ne pouvait pas obéir aux ordres de reconduire les migrants en Libye, un pays en guerre, un port qui n'est pas sûr. C'est également l'avis du ministre italien des Affaires étrangères. La jeune femme est désormais aux arrêts domiciliaires. Elle est visée par une enquête pour avoir favorisé l'immigration clandestine et refusé d'obéir à un navire militaire. Elle risque pour cela jusqu'à 50 000 euros d'amende et jusqu'à 10 ans de prison. Rome, Olivier Tosseri, France Info.
Les discussions ne seront pas faciles, selon Angela Merkel, qui participe ce soir au sommet européen de crise réuni à Bruxelles. Les 28 États membres de l'Union européenne vont devoir faire des compromis pour désigner, entre autres, le nouveau président de la Commission européenne. Le ministre de l'Intérieur demande une inspection technique des CRS intervenus vendredi sur le pont de Sully à Paris. Évacuation musclée des manifestants écolos d'Extinction Rébellion. Les forces de l'ordre les ont ont aspergé de gaz lacrymogène, aspergé à bout portant. Les militants étaient pourtant assis de manière pacifique. Un incendie qui dure depuis 4 jours maintenant dans la Marne, mais les pompiers n'interviendront pas. C'est le camp militaire de Suippes qui est touché, une base truffée d'obus de la guerre 14-18. Sous l'effet de la chaleur, ils peuvent donc exploser à tout moment. Les pompiers encerclent le périmètre extérieur du camp pour que le feu ne se propage pas aux champs agricoles. Mais tant qu'il ne pleuvra pas, il ne s'arrêtera pas. Pas forcément de pluie donc, mais la canicule devrait continuer de reculer ce soir. Les températures en baissent alors qu'il reste 32 départements en vigilance orange. C'est principalement dans l'Est et dans la vallée du Rhône qu'il fait encore très chaud. Il faudra attendre après-demain pour véritablement mieux respirer. 20h33 sur France Info. Tout de suite, la suite des informés. Noé Da Silva.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous, les informés, jusqu'à 21h. Alexia Germont, Jean-Baptiste Marteau, Jérôme Béglé et François Hernenwein. Retour des informés avec la politique en France et la suite du retour de Nicolas Sarkozy. Il était dans Le Point cette semaine, mon cher Jérôme Béglé. Il sort un livre, Passion. Il est ce soir chez nos confrères de France 2. L'ancien président de la République s'est exprimé le 21 juin dernier. C'était lors d'un hommage au président, à l'ancien président Pompidou. On l'écoute.
Et c'est un grand sujet de réflexion pour moi sur la violence en politique et la violence interne aux mêmes familles. Car contrairement à ce qu'on dit, les bagarres entre familles différentes sont infiniment moins cruelles et sauvages que les bagarres à l'intérieur d'une même famille. Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié.
Mais quel acteur, Jérôme Béglé, vous qui l'avez interviewé pour Le Point?
Oui, enfin là, il est filmé, donc il fait un petit numéro. Non, en tout cas, ça montre deux choses. La première, c'est que la vision de la politique de Nicolas Sarkozy est aux antipodes de ce qui se pratique aujourd'hui. Pour lui, la politique, c'est faire des choses. Il a une vision romantique de la politique, une vision, je dirais, pour embrasser plus de choses que de simplement régler des problèmes de chapelle entre Monsieur Bertrand, Madame Morano ou les ambitions de Monsieur Wauquiez. Donc ça, cette politique-là ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, elle ne l'a jamais intéressé. Or, elle est devenue monnaie courante aujourd'hui. Deuxièmement, ça pose la question du retour. Alors, il en parle dans le livre, il en parle dans l'interview. Retour, il n'en est pas question. Il a essayé une fois, ça n'a pas marché. On ne va pas revenir sur les circonstances.
Il a été battu au premier tour.
Il a été battu à la surprise générale au premier tour d'une primaire, même si on peut penser que la primaire n'avait pas forcément les électeurs qu'on aurait pu espérer. Bon, bref, c'est tout à fait autre chose. En revanche, il y a le recours. Et il le dit dans le livre, comme il le dit dans l'interview, le recours, ça ne se prépare pas, ça ne s'organise pas, ça ne se fomente pas et on ne peut pas l'anticiper. Donc recours, ça voudrait dire d'abord que la France va très mal, il ne le souhaite pas, Dieu merci, et il faudrait qu'il y ait personne d'autre sur le champ que lui.
Bon, recours pour la France, peut-être pas, mais recours pour la droite, Jean-Baptiste Marteau.
Mais je l'ai cru pendant très longtemps qu'effectivement Nicolas Sarkozy espérait qu'on vienne comme ça lui supplier de reprendre la famille politique et de se relancer à la présidentielle.
Quand on l'entend justement, ce qu'il dit, c'est très violent dans les partis.
Complètement. Donc, mais après avoir lu son livre, je pense qu'effectivement, je vais essayer convaincu qu'il n'a plus envie de revenir. Parce que, faut regarder quand même, aujourd'hui, il a tout ce que rêve un ancien président de la République. Il a la notoriété, et qu'à voir les files d'attente déjà pour ses premières dédicaces de son livre. Il est très consulté, très choyé, tout le monde se presse pour venir rue de Miromesnil. Et en plus, il a les avantages plutôt financiers et matériels d'être un ancien président de la République et de pouvoir travailler dans le privé à côté. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire savoir s'il faut départager Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Christian Jacob. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, effectivement, il se pose un peu comme le parrain de cette famille, celui qu'on vient voir pour prendre quelques précieux conseils.
Pas très flatteur non plus, bien. Parrain.
En tout cas, chef de famille, lointain cousin, celui va très bien. Mais effectivement, c'est un handicap pour sa famille politique, parce que tant que Nicolas Sarkozy est là et tant que Nicolas Sarkozy est le seul recours possible auquel on imagine et on fait sans cesse appel pour prendre la tête de la prochaine présidentielle dans son parti, bah évidemment, personne ne peut émerger derrière, pas de nouvelles idées, pas de nouveaux visages, et la droite reste dans l'état dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose.
François Hernenwein.
Je trouve ça très émouvant, vous parlez très bien du désir de Nicolas Sarkozy. Mais pour que les choses vivent, il faut au moins être deux. Or, il me semble que chez les responsables de la droite, ce désir d'un retour de Nicolas Sarkozy n'est pas éclatant. J'en ai pas entendu un seul crier « Reviens, Nicolas, reviens !» Donc, hormis ces quelques fidèles.
Mais comme le dit Jean-Baptiste, beaucoup se précipitent pour lui demander conseil et savoir ce qu'il faut faire.
C'est une chose de consulter et c'est autre chose d'installer quelqu'un au sommet. Il n'y a plus à droite aujourd'hui chez les responsables des Républicains le désir de réinstaller Nicolas Sarkozy aux commandes. Donc cette chose-là va s'étioler. Sur les succès de librairie, je ne sais pas s'il sera satisfait de la comparaison, mais François Hollande a réussi une formidable performance.
Alors ça doit lui plaire.
Je ne sais pas s'il aura envie d'engager une nouvelle compétition éditoriale, cette fois, avec l'ancien président de la République.
Jérôme Begley.
Petit bémol quand même, depuis 2012, donc depuis la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, la droite n'a pas remporté une élection. Et tous ceux qui, les uns après les autres, ont pensé être les chefs de famille, Fillon, Juppé, Wauquiez, Bertrand, Coupé, etc., se sont les uns derrière les autres amassés, pardonnez-moi l'expression. Donc c'est bien qu'il y a un problème de leadership dans ce parti. Oui. Et que quand on veut avoir l'espoir de prendre la direction des Républicains, on va à la fontaine de jouvence Sarkozy pour obtenir, si ce n'est une neutralité bienveillante, voire un soutien franc et massif. Ce qui veut dire que il compte encore dans sa famille politique et que personne parmi la jeune génération n'a réussi à dire, écoutez, maintenant c'est fini, il est trop vieux, au rancard, retraité, qu'il fasse ses souvenirs, c'est moi qui prends la place. C'est quand même un vrai problème pour, transformer le parti et le faire renaître dans les semaines et les mois à venir.
De toute façon, tant qu'il y aura l'ombre portée de Nicolas Sarkozy, on le voit bien, personne ne pourra émerger. Aujourd'hui, il y a encore eu des candidatures à la présidence des LR qui ont été annoncées. Tout ça est balayé même dans les médias par rapport au potentiel retour de Nicolas Sarkozy. Après, il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a une certaine proximité intellectuelle avec Emmanuel Macron. Et que ça, dans sa famille politique, ça n'aide pas non plus en termes de positionnement, c'est-à-dire que ça va...
Dépend quelle partie de sa famille politique.
Exactement. Mais ça rajoute une couche de complexité encore, sans oublier qu'effectivement, de toute façon, les Français n'ont pas envie non plus de ce retour. Et
76%
que le bilan...
des sondés pour...
dans le sondage IFOP,
se disent opposés à un comeback de Nicolas Sarkozy.
Et d'autant que le regard d'autant que le regard qui est porté sur le bilan de Nicolas Sarkozy est également assez négatif dans sa grande globalité. Je ne vous parle pas des sympathisants LR ni des sympathisants de la REM qui sont plutôt favorables.
Qui a lu le livre alors ? Jean-Baptiste, Jérôme, vous nous direz exactement ce qu'il y a dans ce livre. Mais à 20h40, le rappel de l'info, Boris Allier.
Des images historiques, un président américain sur le sol nord-coréen. Donald Trump a de nouveau rencontré Kim Jong-un, mais cette fois à la frontière entre les deux Corées. Le président américain l'a franchi sous les objectifs des photographes. Donald Trump, qui en a profité pour inviter le dictateur à la Maison-Blanche. Elle veut un bing-bang à gauche. La députée de la France insoumise Clémentine Autain organisait un meeting aujourd'hui à Paris pour lancer une gauche écologiste populaire. Parmi les personnalités invitées à s'exprimer, Olivier Besançon ou le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Très critique envers son parti, Clémentine Autain assure qu'elle ne veut pas le quitter pour l'instant. Il faut en terminer avec les abandons d'animaux domestiques. C'est l'appel lancé par 240 parlementaires qui évoquent des abandons massifs. Près de 100 000 chiens et chats délaissés chaque année en France. Ces parlementaires de tous bords s'engagent à déposer une proposition de loi censée lutter contre le phénomène. Et puis, il est l'un des cyclistes français les plus appréciés. Thomas Vauclair devient sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route. Premier défi pour le Vendéen, un titre au championnat du monde en septembre prochain.
France Info. France Info, les informés. Noé Da Silva.
Et les informés jusqu'à 21h autour de la table, Alexia Germont, Jean-Baptiste Marteau, Jérôme Béglé, François Hernenwein. Nous évoquons le retour de Nicolas Sarkozy, au moins dans les librairies et dans quelques médias. Jérôme Béglé, Jean-Baptiste Marteau, vous avez lu le livre Passion de Nicolas Sarkozy. Vous avez dit, vous avez passé un bon moment à le lire. Mais qui a-t-il exactement? Est-ce qu'il y a des anecdotes croustillantes? Est-ce que ça balance?
Ça balance, bah oui, ça balance contre lui-même. C'est-à-dire que la personne qu'il ménage le moins dans le livre, c'est lui. Et ça change de beaucoup de livres d'hommes politiques qui se servent la soupe de façon éhontée. Si vous avez lu les, je crois qu'il y avait 3 tomes du Pouvoir et la vie de Valéry Giscard d'Estaing, c'était moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sans moi, les Français et la France n'en seraient pas là. Bon. Là, il nous évite cela, Nicolas Sarkozy.
Ah bon,
alors,
quoi,
ça part de ses souvenirs d'enfance où il raconte, par exemple, que juché sur les épaules de son grand-père, il voyait la défilée du 14 juillet et justement le général de Gaulle et que ça lui a donné envie, avant même de comprendre ce qu'était la politique d'être gaulliste. Et ça va jusqu'au premier jour, première semaine de son intronisation à l'Élysée avec la rencontre avec Carla Bruni. C'est vraiment une histoire passionnante de la droite contemporaine. Comment il choisit ses ministres, ce qu'il en pense, comment lui, il change d'avis parce qu'il rencontre des hommes, parce qu'il discute avec des délégués CGT, parce qu'il a des chagrins personnels, parce qu'il a des rencontres qui tout d'un coup vont lui faire un petit peu infléchir sa position. C'est vraiment, comme on dit en mauvais français, un page-turner. Ça se lit comme des polars américains ou des...
Vous avez... les pages, quoi.
Bah oui, mais on les tourne parce que
on les lit,
on lâche pas. Et ça, si vous savez, comme ces polars nordiques là, qui généralement l'été envahissent ces plages, et c'est pas une mauvaise idée. Au début, j'étais un peu intrigué par l'idée de le sortir un 27 juin, et finalement, j'ai bien compris. Je pense que ça peut aller avec la crème à bronzer. Et
on va le trouver dans les gares et les aéroports.
Les gares, les aéroports et les plages et les piscines.
Jean-Baptiste Marteau.
Oui, c'est même très différent des mémoires de Jacques Chirac qu'on a pu lire quelques années après son départ de l'Élysée. On est effectivement dans tout un tas d'anecdotes qui reflètent assez bien le personnage de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup d'autocritique, d'ailleurs, comme il vient de le dire chez Laurent Delahousse, il dit « je me suis souvent senti obligé de défoncer des portes qui étaient ouvertes ». Ça résume assez bien ce qu'il raconte dans ce livre. Effectivement, quand parfois il voulait absolument prendre le pouvoir alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, quand vis-à-vis de Jacques Chirac, il a parfois...
Alors il parle beaucoup de Jacques Chirac.
Beaucoup de Jacques Chirac, comment cette relation qui était... Il y a une... comment dire... une filiation quand même vis-à-vis de Jacques Chirac et un respect qui reste là et on le sent au fil des pages, mais il parle quand même de haine. On est arrivé à la fin jusqu'à la haine entre ces deux fauves de la politique. On sent que sur François Hollande, il y a beaucoup moins de considération. Il ne le respecte pas énormément. Il a même un certain mépris pour lui. Et alors Dominique de Villepin, alors là, quand vous voyez le sketch de la boule des universités d'été de 2004, où pendant que Nicolas Sarkozy attendait pour ce petit déjeuner sur une terrasse, pendant que Dominique de Villepin était torse nu en train de faire son jogging sur la plage. Alors là, vous voyez, il réécrit un petit peu l'histoire. Mais c'est assez sympathique, effectivement. On a tout un tas d'anecdotes. Est-ce que c'est un vrai livre de réflexion politique sur l'état de la droite et sur sa présidence? Non, pas vraiment. D'ailleurs, ça s'arrête.
Mais c'est pas vendu comme tel.
C'est pas vendu comme tel, effectivement.
Alors, Nicolas Sarkozy, qui est l'invité de Laurent Delahousse sur France 2, explique pourquoi il a écrit ce livre. En tout cas, que ce n'est pas pour son retour.
Et vous savez, il faut savoir dans la vie, sans doute c'est d'ailleurs plus difficile, où est sa place. Mm-hmm. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique. Alors, je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission. Mm. Vous pouvez me croire, pas me croire, mais on peut pas empêcher les gens, et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin.
François Hernenwein, quand vous entendez Nicolas Sarkozy dire ça...
C'est une assez bonne analyse, mais il y a juste un point, là je pense qu'on peut le croire, sauf l'hypothèse envisagée tout à l'heure, l'hypothèse du recours. À mon avis, dans sa représentation du monde, dans l'idée qu'il a de lui-même, cette hypothèse, il ne peut pas l'exclure. Il a compris une chose, assez sûrement... que le jeu partisan, à la fois à cause de sa personnalité et la nature même du jeu partisan à droite, lui interdisent de revenir comme il était revenu, sauver l'UMP au moment de la crise.
Ouais, en 2014. Sinon,
mais Alexia Germont, quand on entend Nicolas Sarkozy sur France 2, on a l'impression quand même que ça lui fait plaisir, qu'on envisage pour lui un retour.
Moi, je trouve qu'il y a surtout beaucoup de... Il y a une tonalité de sincérité.
C'est presque un test de popularité, non ?
Oui, c'est un test de popularité, mais on l'a dit, il a le meilleur de tous les mondes aujourd'hui. C'est-à-dire que il est reconnu comme une figure tutélaire qui a quand même de l'expérience, vers lequel on peut se tourner quand il s'agit d'être à la croisée des chemins pour savoir de quel côté aller. Et il a quand même pris une claque très nette à la primaire de la droite. Donc toute personne normalement constituée quand même a compris le message, y compris des partisans de droite. Donc aujourd'hui, qu'il soit le recours, est-ce qu'il ne souhaite pas à son pays, est-ce qu'on ne souhaite à, évidemment pas, je pense que c'est une logique qu'il se positionne comme ça, en figure tutélaire, avec de l'expérience. Et aujourd'hui, il voyage à travers le monde en étant cette figure tutélaire-là, reconnue à l'extérieur et non remise en cause.
Mais Alexa, non seulement il n'y a pas d'espace politique, mais en plus, il y a quand même l'ombre des affaires qui l'empêche pour l'instant d'envisager le moindre retour. On a quand même un procès correctionnel qui va arriver
Parle de Clearstream et à l'occasion de Clearstream, oui, il parle des affaires. Oui. Voilà. Puisque en fait, comme la période s'arrête à 2007, les affaires à l'époque ne le concernaient que pour l'affaire Clearstream.
On va attendre le tome 2.
Oui, après. Oui, voilà.
N'ayez crainte.
Oui.
Vous lui avez demandé pourquoi il écrivait ce livre, Jérôme Begley?
Oui, alors d'abord, c'est quelqu'un qui a toujours écrit. Pendant très longtemps, on a dit que l'auteur des discours, c'était Camille Pascal et surtout Henri Guénaud. C'était quand même, de la part d'Henri Guénaud, une volonté de se mettre un peu plus en avant que ce qu'il faisait réellement. Nicolas Sarkozy, il a toujours aimé l'écriture, il a toujours aimé prendre le stylo. Et un jour, il a eu envie de raconter. Voilà. Et c'est venu comme ça. Il dit qu'il a fait 100 plans. Il a fait les chapitres des uns derrière les autres. Il a informé le plus tard possible son entourage et le plus tard possible le grand public pour justement avoir la paix et pas être...
Il y avait des clauses de confidentialité avec l'éditeur.
Oui, c'est-à-dire qu'il a commencé à informer son entourage au début du printemps. Et puis, il a donné au mois de mai une première version à son éditrice qui l'a lu et a tout de suite aimé le bouquin. Et après, on a fait signer des clauses de confidentialité dans tous les sens pour éviter qu'il y ait des fuites, ce qui généralement endommage l'impact d'un livre.
Le plan com.
Pas forcément le plan com, mais l'impact d'un livre. Si on dit 3 mois avant, le livre de Tartampion va sortir, vous savez, il va y avoir des fuites les unes derrière les autres, et après, on va avoir de tout savoir à l'instant où le livre est dans les librairies.
Jean-Baptiste Marteau, vous avez évoqué des passages sur Jacques Chirac dans le livre de Nicolas Sarkozy, et il en parle dans l'interview du Point. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que c'est pour rassembler son parti, la droite, en disant, comme fut un temps François Mitterrand pour la gauche?
Oui, peut-être qu'effectivement aujourd'hui, critiquer Jacques Chirac serait malvenu vis-à-vis de tout un tas de Français, notamment du public de droite, mais on sent quand même au fil des pages, quand il évoque Jacques Chirac, qu'il y a un profond respect pour celui qui a été pendant des années son père spirituel, son père politique, quelqu'un avec qui il a partagé la
pour
table
lui et
dimanche.
Sa famille, son clan, comme
ça
il
a
dit.
Été quelqu'un de la famille, Nicolas Sarkozy. Et il y a eu cette trahison réciproque, ces haines qui sont montées au fur et à mesure des années, qui tentent d'expliquer...
Trahison, c'est quand il a rejoint
Édouard Balladur en 1995 plutôt que Jacques Chirac. Et on sent que ça reste une cicatrice qui n'est pas refermée. Ça, c'est vrai qu'on sent peut-être un peu de regret peut-être de sa part, même si il a du mal à en parler ouvertement.
En une phrase de 1975, premier meeting de Nicolas Sarkozy comme orateur à Nice, à 1993, moment où il glisse insensiblement chez Édouard Balladur, donc pendant presque 20 ans, Nicolas Sarkozy est un disciple de Jacques Chirac. Et sans Jacques Chirac, il n'aurait pas fait de la politique. Donc c'est bien normal qu'aujourd'hui, il lui rende l'importance qu'il a à ses yeux.
C'est donc dans le livre de Nicolas Sarkozy. Il est 20h50 sur France Info. Le rappel de l'actualité avec Boris Allier.
32 départements restent en vigilance orange à la canicule dans un grand tiers sud-est de l'Aude au Bas-Rhin. On respire un peu mieux ailleurs avec des températures qui diminuent. Les mesures de circulation différenciées seront levées demain à Paris et Strasbourg. Elles sont maintenues en revanche à Annecy, Lyon et Villeurbanne. Des négociations toujours aussi compliquées. Les dirigeants européens tentent de se mettre d'accord pour désigner le futur président de la Commission européenne. Un sommet de crise est en cours à Bruxelles. Les chefs d'État doivent aussi choisir un responsable pour le Conseil européen, la Banque centrale et les affaires étrangères. Emmanuel Macron, lui, insiste sur le respect de la parité. Au Soudan, les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Plusieurs milliers de personnes ont rejoint le palais présidentiel pour réclamer le départ des généraux au pouvoir et la mise en place d'un gouvernement civil. C'est le plus grand rassemblement depuis le sit-in qui avait été dispersé dans le sang au début du mois. Et puis c'est confirmé, Max Verstappen remporte le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche. Une victoire avec panache, mais le pilote Red Bull a failli être pénalisé pour avoir poussé le leader Charles Leclerc à 2 tours de l'arrivée.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Les informés, et la dernière partie des informés jusqu'à 21h, c'est la partie des coups de cœur que vous attendez, bien évidemment. On va commencer avec vous, Jean-Baptiste Marteau. Quel est votre coup de cœur ce soir?
Je voudrais un coup de cœur auprès de toutes ces semaines où on a célébré les prides, les marches des fiertés pour la communauté LGBT à travers le monde. Il y a eu une très belle marche hier à Paris sous la canicule. Il y a eu 3 millions de personnes aujourd'hui à New York. Et c'est important cette année parce que c'est 50 ans après les émeutes de Stonewall qui avaient un peu lancé comme ça le mouvement LGBT.
Et contre la répression policière.
Exactement. Mais surtout les rôles modèles que ça peut avoir. Parce que on reçoit beaucoup de lettres de jeunes quand on évoque ces questions. Et je ressens que pour beaucoup, le fait de voir des personnalités publiques s'exprimer sur ces questions, pour des jeunes qui sont souvent isolés chez eux, qui n'ont pas d'amis ou autres qui sont comme eux, qui sentent cette différence, eh ben, c'est très important.
Les prises de parole publiques.
Des prises de parole publiques qui sont très importantes. Et il y en a une qui m'a beaucoup marqué cette semaine.
Je vous propose de l'écouter.
On va l'écouter.
C'est le prince William.
Exactement.
J'ai commencé à réfléchir à ce sujet depuis que j'ai des enfants, c'est quelque chose qui m'inquiète. Pas le fait qu'ils soient gays ou non, je m'inquiète de la pression qu'ils pourraient subir et à quel point leur vie pourrait être plus difficile. J'aimerais que nous vivions dans un monde où ce serait normal. Mais du point de vue de ma famille, de notre situation particulière, c'est ça qui m'inquiète.
Il dit quoi là? Attendez, il est en train de finir. Voilà, merci, votre Altesse.
Il avait un enfant, son fils ou sa fille, qui serait homosexuel, et ben ça ne lui poserait pas de problème. Ça peut paraître insignifiant, ça l'est probablement, mais le fait que l'héritier de la cour en Angleterre et sa tradition disent ça, et ben c'est déjà un premier pas important et ça fait du bien.
Alexia Germont, votre coup de cœur, un peu raccord.
Un peu raccord, c'était pas fait
exprès. C'est une histoire de château.
Voilà, on reste dans les histoires de royauté. Alors, c'était peut-être inspiré par la canicule. Ce sont les grandes eaux nocturnes du château de Versailles, parce que entre le mois de juin et le mois de septembre, tous les samedis soirs, c'est un spectacle absolument féerique. Je crois qu'on a besoin aussi d'un peu de douceur, qu'a priori, tous les touristes se précipitent en premier au château de Versailles, c'est qu'on devrait peut-être faire la même chose. Il y a de l'élégance. Et c'est aussi une certaine image de la France dans notre histoire.
Qui est déjà allé au château de Versailles?
Non, c'est beau, les grandes eaux, il faut absolument voir ça. Ouais.
Jérôme, François.
Quand on a la chance d'être parisien, on y va tous au moins une fois.
Une fois. Jérôme Beuglé, justement, votre coup de cœur.
Un coup de cœur en forme de scoop, puisque figurez-vous que ce sont les Français qui sont allés les premiers sur la Lune et pas les Américains. Ah. Une petite maison d'édition qui s'appelle la maison des...
Fake news.
Laissez-moi aller jusqu'au bout avant de me vitupérer. L'édition des Saint-Pères publie le manuscrit d'Autour de la Lune, qui est la grande œuvre de Jules Verne, qu'il a écrit en 1869. Et alors c'est absolument fascinant parce que la distance qu'il imaginait entre la Terre et la Lune sans instrument est à peu près celle qui finalement a été mesurée 100 ans plus tard. Il avait imaginé 3 cosmonautes américains qui iraient sur la Lune. Il avait imaginé que la fusée, l'obus finalement, qui irait autour de la Lune, finirait par être attiré par l'attraction terrestre. Et cet obus, il partait de Floride. Et tout ça s'est révélé 100 ans après, puisque 1869, c'est exactement 100 ans avant que nos amis américains Neil Armstrong & Co. se posent sur la Lune. Et ça vaut vraiment le coup de relire le livre. Là, c'est le manuscrit original qui est publié par les éditions des Saint-Pères.
Les Américains ont lu le livre et ont fait la même chose.
C'est un manuscrit qui est entreposé à la maison au musée Jules Verne de Nantes. C'est absolument magnifique parce que vous voyez les repentirs, vous voyez les ratures, vous voyez absolument toutes les inspirations de Jules Verne. Sa calligraphie qui est à la fois belle esthétiquement mais presque illisible. Et vous avez aussi des illustrations d'époque. Franchement, c'est un très beau cadeau. Ça se trouve pas malheureusement dans les librairies, mais je crois que c'est sur le site d'Amazon évidemment et sur le site de la maison d'édition. Et ça vaut le coup de s'offrir ça pour le lire cet été, même si c'est assez encombrant.
Autour de la Lune.
Avec le livre Autour de Nicolas de la Lune, Sarkozy. Ouais. Il y en a un qui sera plus facile à lire que l'autre. François Ehrenwein.
J'ai pas dit lequel.
Moi non plus.
Bon, le sujet est un peu moins léger, vous m'excuserez, mais lundi, c'est-à-dire demain, le président italien Sergio Mattarella rencontrera Alexander Van den Beulen, qui est le président autrichien. Alors, ce qui est intéressant dans cette rencontre, on a deux présidents de la République modérés qui, dans leurs pays respectifs, ont mis en œuvre une sorte de résistance institutionnelle aux dérives de l'extrême droite. Et leur action, j'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qu'ils se disent de l'expérience qu'ils vivent et l'un et l'autre, modérés, raisonnables, face aux pressions qu'ils subissent des premiers ministres qu'ils ont connus.
On suivra ça donc demain pour essayer de savoir ce qui se dit. François Ernenwein, la petite souris, avec la une de la Croix de demain.
On revient sur 8 semaines de procès France Télécom avec les...
Le procès d'un aveuglement, c'est le titre.
Voilà, c'est ça, c'est le procès d'un aveuglement, ce qui s'est passé à France Télécom. Maintenant, c'est la séquence des plaidoiries et puis viendra le temps des jugements.